Extrait numéro 16, chapitre 21, la conspiration Palaine. Vous connaissez l'empereur Paul Ier. Maintenant, vous devez comprendre qu'un règne comme le sien, succédant au règne intelligent et artistique de Catherine II, devait être insupportable au seigneur russe, qui n'était jamais sûr, en se couchant le soir, de ne pas s'éveiller à la forteresse, ou en montant en voiture, de ne point partir pour la Sibérie. Cependant, au milieu de ces exils et de ces disgrâces, deux hommes avaient conservé leur position. Ils semblaient enracinés à leur poste. L'un était le comte Koutaïssov, ce barbier turc dont nous avons raconté l'histoire à propos de la statue de Souvorov. L'autre était le comte Palaine. Le baron Pierre Palaine, créé comte par Paul Ier le 22 février 1799, était de bonne noblesse courlandaise. Ses aïeux avaient été faits barons par le roi Charles IX de Suède. Créé major général sous Catherine, grâce à l'amitié de Platon Zouboff, dernier favori de l'impératrice, il avait été élevé à la place de gouverneur civil de la ville de Riga. Or, quelque temps avant son avènement au trône, le grand-duc Paul, passant par l'ancienne capitale du duché de Livonie, y fut reçu par le comte Palaine avec les honneurs dus à l'héritier du trône. C'était l'époque où Paul était en exil ou à peu près. Peu habitué à de semblables réceptions, il fut reconnaissant au gouverneur de Riga de celles qu'il avait osé lui faire au risque de déplaire à l'impératrice. Et devenu empereur, il fit venir Palaine à Saint-Pétersbourg, le décora des premiers ordres de l'Empire, le nomma chef des gardes et gouverneur de la ville. Il déplaçait pour lui son fils, le grand-duc Alexandre, dont le respect et l'amour n'avaient pu désarmer sa défiance. Mais justement, de la position qu'il occupait près de l'empereur, Palaine avait vu tant de gens monter à la faveur par un caprice et par un caprice en descendre. Il avait vu tant d'autres en tomber et se briser en tombant qu'il ne comprenait pas lui-même par quelle bizarrerie du sort il n'avait pas suivi les autres. Un dernier exemple de l'instabilité des fortunes humaines le frappa. Son ancien protecteur Zouboff, à qui nous avons vu Paul, à la mort de Catherine, conserver son grade d'aide-de-camp général du palais et confier la garde du cadavre de sa mère, tomba tout à coup et, sans raison, en disgrâce, vit les scellés mis sur sa chancellerie, ses deux secrétaires chassés et tous les officiers de son état-major forcés de rejoindre leur corps ou de donner leur démission. Ce n'était pas tout. Le lendemain, tous ses autres commandements lui étaient retirés. Le surlendemain, on lui avait demandé sa démission des 25 ou 30 emplois qu'il occupait, et une semaine ne s'était pas écoulée qu'il avait reçu l'ordre de quitter la Russie. Platon, alors, s'était retiré en Allemagne. Et là, jeune, beau, couvert de décorations, il faisait excuser le moyen par lequel il était arrivé et comprendre qu'au moment où il risquait la Sibérie en manquant autant qu'il était possible de respect à l'impératrice, celle-ci, au lieu de le punir, lui eût dit encore plus tendrement que royalement « Par la grâce de Dieu, cela nous plaît, continuez. » Et cependant, malgré ses succès à Vienne et à Berlin, Zouboff, nous pouvons dire le prince Zouboff, car il avait été fait prince du Saint-Empire le 2 juin 1796. Le prince Zouboff regrettait Saint-Pétersbourg. Il était en correspondance avec Palaine et le suppliait de s'occuper chaudement de sa rentrée dans ce monde russe. Palaine ne savait pas trop comment s'y prendre pour arriver à ce résultat, quand tout à coup une idée lumineuse lui traversa le cerveau. « Vous n'avez qu'un moyen de rentrer à Saint-Pétersbourg, lui dit-il. c'est de demander la main de la fille du barbier Koutaïssov. On vous l'accordera. Vous reviendrez à Saint-Pétersbourg, vous ferez la cour à votre fiancé, le mariage traînera en longueur, et qui sait si, pendant ce temps-là, quelque événement ne s'accomplira point qui vous permette de rester à Saint-Pétersbourg. Le conseil parut bon à Zoubov. Il écrivit au comte Koutaïssov une lettre dans laquelle il suppliait l'ancien barbier de lui accorder sa fille. Celui-ci reçut la lettre, la lut et la relut. Il n'y pouvait croire. Le prince Zoubov, le dernier amant de Catherine, le plus beau, le plus élégant, le plus riche des gentilshommes russes, demandait à s'allier avec lui. Il courut au palais, se jeta aux pieds de l'empereur et lui montra la lettre. Celui-ci la lut à son tour et la lui rendant après l'avoir lue. « C'est la première idée raisonnable qui passe par la tête de ce fou, dit-il. C'est bien qu'il revienne. » 15 jours après, Zoubov était à Saint-Pétersbourg et, avec l'agrément de Paul, faisait sa cour à la fille du favori. À peine Zoubov à Saint-Pétersbourg, comme si l'on eût attendu que son arrivée, la conspiration se noua. D'abord, les conjurés ne parlèrent que d'une simple abdication, d'une substitution de personne, et voilà tout. L'empereur serait envoyé sous bonne garde dans quelque province éloignée, dans quelque forteresse inabordable, et le grand-duc, dont on disposait sans son consentement, monterait sur le trône. Quelques-uns seulement savaient que l'on tirerait le poignard au lieu de l'épée, et que le poignard, une fois tiré, il ne rentrerait que sanglant au fourreau. Cela connaissait le tsarévitch Alexandre, et sachant qu'ils n'accepteraient pas une régence, ils étaient décidés de lui faire une succession. Que l'on nous permette de nous emprunter à nous-mêmes les détails de la terrible catastrophe qui porta Alexandre au trône de toutes les Russies. Cependant, Palen, quoique le chef de la conspiration, avait scrupuleusement évité de donner une seule preuve contre lui. De sorte que, selon l'événement, il pouvait seconder ses compagnons ou secourir Paul. Cette réserve de sa part jetait une certaine froideur sur les délibérations, et les choses eussent peut-être traîné ainsi en longueur un an encore, s'il ne les avait hâtées lui-même par un stratagème étrange, mais qu'avec la connaissance qu'il avait du caractère de Paul, il savait devoir réussir. Il écrivit au tsar une lettre anonyme dans laquelle il l'avertissait du danger dont l'Empire était menacé. À cette lettre était jointe une liste contenant les noms de tous les conjurés. Le premier mouvement de Paul en recevant cette lettre fut de doubler les postes du palais Saint-Michel et d'appeler Palen. Palen, qui s'attendait à cette invitation, s'y rendit aussitôt. Il trouva Paul Ier dans sa chambre à coucher, située au premier étage. C'était une grande pièce carrée, avec une porte en face de la cheminée, deux fenêtres donnant sur la cour, un lit en face de ces deux fenêtres, et au pied du lit une porte dérobée qui donnait chez l'impératrice. En outre, une trappe, connue de l'empereur seul, était pratiquée dans le plancher. J'ai dit qu'on ouvrait cette trappe en la pressant avec le talon de la botte et qu'elle donnait sur l'escalier dans un corridor par lequel on pouvait fuir du palais. Paul se promenait à grands pas, entrecoupant sa marche d'interjections terribles, lorsque la porte s'ouvrit et que le comte parut. L'empereur se retourna et, demeurant debout, les bras croisés, les yeux sur Palen. « Comte, lui dit-il après un instant de silence, savez-vous ce qui se passe ?»« Je sais, répondit Palen, que mon gracieux souverain me fait appeler et que je m'empresse de me rendre à ses ordres. Mais savez-vous pourquoi je vous fais appeler ? S'écria Paul avec un mouvement d'impatience. « J'attends respectueusement que votre majesté daigne me le dire. Je vous ai fait appeler, monsieur, parce qu'une conspiration se trame contre moi. »«
Je le sais, sire. » »«
Comment vous le savez ?»«
Sans doute, je suis un des complices. » »«
Eh bien, je viens d'en recevoir la liste, la voici. » »«
Et moi, sire, j'en ai le double, la voilà. »
Palaine, murmura Paul épouvanté, et ne sachant encore ce qu'il devait croire.
Sire, reprit le comte, vous pouvez comparer les deux listes. Si le délateur est bien informé, elles doivent être pareilles.
Voyez, dit Paul.
Oui, c'est cela, dit froidement Palaine. Seulement trois personnes sont oubliées.
Lesquelles ? Demanda vivement l'empereur.
« Sire, la prudence m'empêche de les nommer. Mais après la preuve que je viens de donner à votre majesté de l'exactitude de mes renseignements, j'espère qu'elle daignera m'accorder une confiance entière et se reposer sur mon zèle du soin de veiller à sa sûreté. »
« Point de défaite, interrompit Paul avec toute l'énergie de la terreur. Qui sont-ils ? Je veux savoir qui ils sont à l'instant même. »
Sire, répondit Palaine en inclinant la tête, le respect m'empêche de révéler d'augustes noms.
J'entends, reprit Paul d'une voix sourde, et jetant un coup d'œil sur la porte dérobée qui conduisait à l'appartement de sa femme.
Vous voulez dire l'impératrice, n'est-ce pas ? Vous voulez dire le tsarévitch Alexandre et le grand-duc Constantin ?
Si la loi ne doit connaître que ceux qu'elle peut atteindre, la loi atteindra tout le monde, monsieur, et le crime, pour être plus grand, ne sera pas impuni.
Palaine, à l'instant même, vous arrêterez les deux grands-ducs et demain, ils partiront pour Schlüsselbourg.
Quant à l'impératrice, j'en disposerai moi-même. Pour les autres conjurés, c'est votre affaire.
Sire, dit Palaine, donnez-moi l'ordre écrit. Et si haute que soit la tête qui frappe, si grand que soit ce qu'il doit atteindre, j'obéirai.
Bon Palaine, s'écria l'empereur, tu es le seul serviteur fidèle qui me reste.
Veille sur moi, Palaine, car je vois bien qu'ils veulent tous ma mort et que je n'ai plus que toi.
À ces mots, Paul signa l'ordre d'arrêter les deux grands-ducs et remit cet ordre à Palaine. C'était tout ce que désirait l'habile conjuré. Muni de ses différents ordres, il courut au logis du Platon Soubov, chez qui il savait les conspirateurs assemblés.
« Tout est découvert, leur dit-il. Voici l'ordre de vous arrêter. Il n'y a donc pas un instant à perdre. Cette nuit, je suis encore gouverneur de Saint-Pétersbourg. Demain, je serai peut-être en prison. Voyez ce que vous voulez faire. »
Il n'y avait pas à hésiter, car l'hésitation, c'était l'échafaud ou tout au moins la Sibérie. Les conjurés prirent rendez-vous pour la nuit même chez le comte Talitsyn, colonel du régiment de Préobrajinski, et comme ils n'étaient pas assez nombreux, ils résolurent de s'augmenter de tous les mécontents arrêtés dans la journée même. La journée avait été bonne, car dans la matinée, une trentaine d'officiers appartenant aux meilleures familles de Saint-Pétersbourg avaient été dégradés et condamnés à la prison ou à l'exil, pour des fautes qui méritaient à peine une réprimande. Le comte ordonna qu'une douzaine de traîneaux se tinssent prêts à la porte des différentes prisons où étaient enfermés ceux qu'on voulait s'associer. Puis, voyant ses complices décidés, il se rendit chez le tsarévitch Alexandre. Celui-ci venait de rencontrer son père dans un corridor du palais et avait été, comme d'habitude, droit à lui. Mais Paul, lui faisant signe de la main de se retirer, lui avait enjoint de rentrer chez lui et d'y demeurer jusqu'à nouvel ordre. Le comte le trouva donc d'autant plus inquiet qu'il ignorait la cause de cette colère qu'il avait lue dans les yeux de l'empereur.
Aussi à peine aperçut-il Palaine qu'il lui demanda s'il n'était point chargé, de la part de son père, de quelque ordre pour lui. « Hélas, répondit Palaine, oui, votre Altesse, je suis chargé d'un ordre terrible. » « Et lequel ? » demanda Alexandre. « De m'assurer de votre Altesse et de lui demander son épée. » « Ah, moi, mon épée ! » s'écria Alexandre. « Et pourquoi ?»«
Parce que, à compter de 7 heures, vous êtes prisonnier. »«
Moi, prisonnier ? Et de quel crime suis-je donc accusé, Palaine ?»«
Votre Altesse impériale n'ignore pas qu'ici, malheureusement, on encourt parfois le châtiment sans avoir commis l'offense. »
« L'empereur est doublement maître de mon sort, répondit Alexandre, et comme mon souverain et comme mon père. Montrez-moi l'ordre, et quel qu'il soit, je suis prêt à m'y soumettre. »
Le comte lui remit l'ordre. Alexandre l'ouvrit, baisa la signature de son père, puis commença à lire.
Seulement lorsqu'il fut arrivé à ce qui concernait Constantin, « Et mon frère aussi, s'écria-t-il, j'espérais que l'ordre ne concernait que moi seul. » Mais parvenu à l'article qui concernait l'impératrice, « Oh, ma mère, ma vertueuse mère, cette sainte du ciel descendue parmi nous, c'en est trop, Palaine, c'en est trop. » Et se couvrant le visage de ses deux mains, il laissa tomber l'ordre.
Palaine crut que le moment favorable était venu.
« Monseigneur, lui dit-il en se jetant à ses pieds, Monseigneur, écoutez-moi. Il faut prévenir de grands malheurs. Il faut mettre un terme aux égarements de votre auguste père. Aujourd'hui, il en veut à votre liberté. Demain, peut-être, il en voudra à votre Palaine. Monseigneur, souvenez-vous d'Alexis Petrovitch. Palaine, vous calomniez mon père. Non, monseigneur, car ce n'est pas son cœur que j'accuse, c'est sa raison. Tant de contradictions étranges, tant d'ordonnances inexcusables, tant de punitions inutiles ne s'expliquent que par l'influence d'une maladie terrible. Ceux qui entourent l'empereur le disent tous, et ceux qui sont loin de lui le répètent, monseigneur. Votre malheureux père est insensé. Mon Dieu ! Eh bien, monseigneur, il faut le sauver de lui-même. Ce n'est pas moi qui viens vous donner ce conseil, c'est la noblesse, c'est le Sénat, c'est l'Empire. Et je suis ici que leur interprète. Il faut que l'empereur abdique en votre faveur. Palaine, fit Alexandre en reculant d'un pas, que me dites-vous là ? Moi, que je succède à mon père vivant encore, que je lui arrache la couronne de la tête et le sceptre des mains. C'est vous qui êtes fou, Palaine, jamais, jamais.
Mais, monseigneur, vous n'avez donc pas vu l'ordre ?
Croyez-vous qu'il s'agisse d'une simple prison ?
Non pas, croyez-moi, les jours de votre Altesse sont en danger.
Sauvez mon frère, sauvez l'impératrice, et c'est tout ce que je vous demande, s'écria Alexandre.
Et en suis-je le maître, dit Palaine, l'ordre n'est-il pas pour eux comme pour vous?
Une fois arrêté, une fois en prison, qui vous dit que des courtisans trop oppressés, en croyant servir l'empereur, n'iront pas au-devant de ses volontés?
Tournez les yeux vers l'Angleterre, monseigneur. Même chose s'y passe. Quoique le pouvoir moins étendu rende le danger moins grand, le prince de Galles est prêt à prendre la direction du gouvernement, et cependant la folie du roi Georges est une folie douce et inoffensive.
D'ailleurs, monseigneur, un dernier mot. Peut-être, en acceptant ce que je vous offre, sauvez-vous la vie, non seulement du grand-duc et de l'impératrice, mais encore de votre père.
Que voulez-vous dire ?
Je dis que le règne de Paul est si lourd que la noblesse et le Sénat sont décidés à y mettre fin par tous les moyens possibles. Vous refusez une abdication ? Peut-être demain serez-vous obligé de pardonner un assassinat.
Palaine, dit Alexandre, ne puis-je donc voir mon père ?
« Impossible, monseigneur. défense positive est faite de laisser pénétrer votre Altesse jusqu'à lui. Et vous dites que la vie de mon père est menacée ? La Russie n'a d'espoir qu'en vous, monseigneur. Et s'il faut que nous choisissions entre un jugement qui nous perd et un crime qui nous sauve, nous choisirons le crime. » Palen fit un mouvement pour sortir. « Palen !» s'écria Alexandre, en l'arrêtant d'une main, tandis que de l'autre il tirait de sa poitrine un crucifix qu'il y portait, suspendu à une chaîne d'or. « Palen, jurez-moi sur le Christ que les jours de mon père ne courent aucun danger et que vous vous ferez tuer s'il le faut pour le défendre. Jurez-moi cela ou je ne vous laisse pas sortir. »« Monseigneur, répondit Palen, je vous ai dit ce que je devais vous dire. Réfléchissez à la proposition que je vous ai faite. Moi, je vais réfléchir au serment que vous me demandez. » À ces mots, Palen s'inclina respectueusement, sortit et plaça des gardes à la porte. Puis il entra chez le grand-duc Constantin et chez l'impératrice Marie, leur signifia l'ordre de l'empereur, mais ne prit point les mêmes précautions que chez Alexandre. Il était 8 heures du soir et par conséquent nuit close, car on n'était encore arrivé qu'au premier jour du printemps. Palen courut chez le comte Talitsine, où il trouva les conjurés à table. Sa présence fut accueillie par 1000 demandes différentes. « Je n'ai le temps de vous rien répondre, dit-il, sinon que tout va bien et que dans une demi-heure, je vous amène des renforts. » Le repas, interrompu un instant, continua. Palen se rendit à la prison. Comme il était gouverneur de Saint-Pétersbourg, toutes les portes s'ouvrirent devant lui. Ceux qui le virent entrer ainsi dans les cachots entourés de gardes et l'œil sévère crurent que l'heure de leur exil en Sibérie était arrivée ou qu'ils allaient être transférés dans une prison encore plus dure. La manière dont Palen leur ordonna de se tenir prêts à monter en traîneau les confirma encore dans cette supposition. Les malheureux jeunes gens obéirent. À la porte, une compagnie des gardes les attendait. Les prisonniers montèrent dans les traîneaux sans résistance et à peine y furent-ils qu'ils se sentirent emportés au galop. Contre leur attente, au bout de 10 minutes à peine, les traîneaux firent halte dans la cour d'un hôtel magnifique. Les prisonniers, invités à descendre, obéirent. La porte s'était refermée derrière eux. Les soldats étaient restés en dehors. Il n'y avait avec eux que Palen. « Suivez-moi, » leur dit le comte en marchant le premier. Sans rien comprendre à ce qui se passait, les prisonniers firent ce qu'on leur disait de faire. En arrivant dans une chambre qui précédait celle où étaient réunis les conjurés, Palen leva un manteau jeté sur une table et découvrit un faisceau d'épées. « Armez-vous, » dit-il, tandis que les prisonniers, stupéfaits, obéissaient à cet ordre et replaçaient à leur côté l'épée que le bourreau en avait arrachée ignominieusement le matin même, commençant à soupçonner qu'il allait se passer pour eux quelque chose d'aussi étrange qu'inattendu, Palen fit ouvrir les portes et les nouveaux venus virent à table le verre à la main et les saluant du cri de « Vive Alexandre !» des amis dont 10 minutes auparavant, ils croyaient encore être séparés pour toujours. Aussitôt, ils se précipitèrent dans la salle du festin. En quelques mots, on les mit au fait de ce qui allait se passer. Ils étaient encore pleins de honte et de colère du traitement qu'ils avaient subi le jour même. La proposition régicide fut donc accueillie avec des cris de joie et pas un ne refusa de prendre le rôle qu'on lui avait réservé dans la tragédie terrible qui allait s'accomplir. À 11 heures, les conjurés, au nombre de 60 à peu près, sortirent de l'hôtel Talitsine et s'acheminèrent, enveloppés de leurs manteaux, vers le palais Saint-Michel. Les principaux étaient Bénigzène, Platon Zouboff, ancien favori de Catherine, Palène, gouverneur de Saint-Pétersbourg, Depreradovitch, colonel du régiment de Simionovsk, Arkhamakov, aide-de-camp de l'empereur, le prince Tatetsvil, major général d'artillerie, le général Talitsyn, colonel du régiment de la garde Préobrajinski, Gardanov, adjudant des gardes à cheval, Sartarinov, le prince Verinskoy et Seriatin. Les conjurés entrèrent par une porte du jardin du palais Saint-Michel, mais au moment où ils passaient sous les grands arbres qui l'ombragent l'été et qui, à cette heure, dépouillés de leurs feuilles, tordaient dans l'ombre leurs bras déchaînés, une bande de corbeaux, réveillés par le bruit qu'ils faisaient, s'envola en poussant des croassements si lugubres qu'arrêtés par ces cris qui, en Russie, passent pour un mauvais présage, les conspirateurs hésitèrent à aller plus loin. Mais Zouboff et Palène ranimèrent leur courage et ils continuèrent leur route. Arrivés à la cour, ils se séparèrent en deux bandes. L'une, conduite par Palène, entra par une porte particulière que le comte avait l'habitude de prendre lorsqu'il voulait entrer chez l'empereur sans être vu. L'autre, sous les ordres de Zouboff et de Bennigsen, s'avança, guidé par Arkhamakov, vers le grand escalier où elle parvint sans empêchement. Palène, ayant fait relever les postes du palais et y ayant placé au lieu de soldats des officiers conjurés, une seule sentinelle qu'on avait oublié de changer comme les autres cria « Qui vive !» en les voyant s'approcher. Alors Bennigsen s'avança vers elle et ouvrant son manteau pour lui donner ses décorations. « Silence !» lui dit-il. « Ne vois-tu pas où nous allons ?»« Passez, patrouille !» répondit la sentinelle en faisant de la tête un signe d'intelligence. Et les meurtriers passèrent. En arrivant dans la galerie qui précède l'antichambre, ils trouvèrent un officier déguisé en soldat. « Eh bien, l'empereur !» demanda Platon Zouboff. « Rentré depuis une heure, répondit l'officier, et sans doute couché maintenant. »« Bien, répondit Zouboff. » Et la patrouille, régicide, continua son chemin. En effet, Paul, selon sa coutume, avait été passer la soirée chez la princesse Gagarine. En le voyant entrer plus pâle et plus sombre qu'à l'ordinaire, celle-ci avait couru à lui et lui avait demandé avec instant ce qu'il avait. « Ce que j'ai, avait répondu l'empereur, j'ai que le moment de frapper mon grand coup est arrivé et que dans peu de jours on verra tomber des têtes qui m'ont été bien chères. » Effrayée de cette menace, la princesse Gagarine, qui connaissait la défiance de Paul pour sa famille, saisit le premier prétexte qui se présenta de sortir du salon, écrivit au grand-duc Alexandre quelques lignes pour lesquelles elle lui disait que sa vie était en danger, et les fit porter au palais Saint-Michel. Comme l'officier qui était de garde à la porte du prisonnier avait pour toute consigne de ne pas laisser sortir le tsarévitch, il laissa entrer le messager. Alexandre reçut donc le billet, et comme il savait la princesse Gagarine initiée à tous les secrets de l'empereur, ses anxiétés en redoublèrent. À 11 heures à peu près, comme l'avait dit la sentinelle, l'empereur était rentré au palais et s'était immédiatement retiré dans son appartement, où il s'était couché aussitôt et venait de s'endormir sur la foi de Palène. En ce moment, les conjurés arrivèrent à la porte de l'antichambre qui précédait la chambre à coucher. À Arkhamakov frappa. Qui est là ? Demanda le valet de chambre. « Moi, Arkhamakov, l'aide de camp de Sa Majesté. Que voulez-vous ? Je viens faire mon rapport. Votre Excellence plaisante, il est minuit à peine. Allons donc, c'est vous qui vous trompez, il est 6 heures du matin. Ouvrez vite, de peur que l'empereur ne s'irrite contre moi. Mais je ne sais si je dois. Je suis de service et je vous l'ordonne. » Le valet de chambre obéit. Aussitôt, les conjurés, l'épée à la main, se précipitent dans l'antichambre. Le valet, effrayé, se réfugie dans un coin. Mais un hussard polonais, qui était de garde, s'élance au-devant de la porte de l'empereur et, devinant l'intention des nocturnes visiteurs, leur ordonne de s'éloigner. Zoubov refuse et veut l'écarter de la main. Un coup de pistolet part, mais à l'instant même, l'unique défenseur de celui qui, une heure auparavant, commandait à 53 millions d'hommes, est désarmé, terrassé et réduit à l'impossibilité d'agir. Au bruit du coup de pistolet, Paul s'était réveillé en sursaut, avait sauté à bas de son lit et s'élança par la porte dérobée qui conduisait chez l'impératrice. Il avait essayé de l'ouvrir. Mais 3 jours auparavant, dans un moment de défiance, il avait fait condamner cette porte, de sorte qu'elle resta fermée. Alors il songea à la trappe et s'élança vers l'angle de l'appartement où elle se trouvait. Malheureusement, comme il était nu-pied, le ressort résista à la pression et la trappe, à son tour, refusa de s'ouvrir. En ce moment, la porte de l'antichambre tomba en dedans et l'empereur n'eut que le temps de se jeter derrière un écran de cheminée. Bennigsen et Zoubov se précipitèrent dans la chambre et Zoubov marcha droit au lit, mais le voyant vide. « Tout est perdu !» s'écria-t-il, « il nous échappe !»« Non !» dit Bennigsen, « le voici !»« Palen !» s'écrie l'empereur qui se voit découvert, « à mon secours, Palen !» « Sire, dit alors Bennigsen en s'avançant vers Paul et en le saluant avec son épée, vous appelez inutilement Palen, Palen est des nôtres. D'ailleurs, votre vie ne court aucun risque. Seulement, vous êtes prisonnier au nom de l'empereur Alexandre. « Qui êtes-vous ? » dit l'empereur si troublé qu'à la lueur tremblante et pâle de sa lampe de nuit, il ne reconnaissait pas ceux qui lui parlaient. « Qui nous sommes ? » répondit Zoubov en présentant l'acte d'abdication. « Nous sommes les envoyés du Sénat. Prends ce papier, lis et prononce toi-même sur ta destinée. » Alors Zoubov lui remet le papier d'une main, tandis que de l'autre, il transporte la lampe à l'angle de la cheminée pour que l'empereur puisse lire l'acte qu'on lui présente. En effet, Paul prend le papier et le parcourt. Au tiers de la lecture, il s'arrête et relevant la tête et regardant les conjurés. « Mais que vous ai-je fait, grand Dieu ? S'écria-t-il, pour que vous me traitiez ainsi ? Il y a 4 ans que vous nous tyrannisez, crie une voix. » Et l'empereur se remet à lire. Mais à mesure qu'il lit, les griefs s'accumulent. Les expressions de plus en plus outrageantes le blessent. La colère remplace la dignité. Il oublie qu'il est seul, qu'il est nu, qu'il est sans armes, qu'il est entouré d'hommes qui ont le chapeau sur la tête et l'épée à la main. Il froisse violemment l'acte d'abdication et, le jetant à ses pieds, « Jamais, dit-il, plutôt la mort !» À ces mots, il fait un mouvement pour s'emparer de son épée posée à quelques pas de lui sur un fauteuil. En ce moment, la seconde troupe arrivait. Elle se composait en grande partie de jeunes nobles dégradés ou éloignés du service, parmi lesquels un des principaux était le prince Tatetsville, qui avait juré de se venger de cette insulte. Aussi, à peine entré, il s'élance sur l'empereur, le saisit corps à corps, lutte et tombe avec lui, renversant du même coup la lampe et le paravent. L'empereur jette un cri terrible, car en tombant, il s'est heurté la tête à l'angle de la cheminée et s'est fait une profonde blessure. Tremblant que ce cri ne soit entendu, Sartarinov, le prince Verinskoï et Seriatine s'élancent sur lui. Paul se relève un instant et retombe. Tout cela se passe dans la nuit, au milieu de cris et de gémissements, tantôt aigu, tantôt sourd. Enfin, l'empereur écarte la main qui lui ferme la bouche. Messieurs, s'écrie-t-il en français, messieurs, épargnez-moi, laissez-moi le temps de prier. Le dernier mot est étouffé. Un des assaillants a dénoué son écharpe et l'a passé autour des flancs de la victime qu'on ose étrangler par le cou, car le cadavre sera exposé et il faut que la mort passe pour naturelle. Alors les gémissements se convertissent en râles, bientôt le râle lui-même expire, quelques mouvements convulsifs lui succèdent, qui cessent bientôt, et quand Bennigsen rentre avec des lumières, l'empereur est mort. C'est alors seulement qu'on s'aperçoit de la blessure de la joue. Mais peu importe, comme il a été frappé d'une apoplexie foudroyante, rien d'étonnant qu'en tombant, il se soit heurté à un meuble et se soit blessé ainsi. Dans le moment de silence qui suit le crime, et tandis qu'à la lueur des flambeaux que rapporte Bennigsen, on regarde le cadavre immobile, un bruit se fait entendre à la porte de communication. C'est l'impératrice qui a entendu des cris étouffés, des voix sourdes et menaçantes, et qui accourt. Les conjurés s'effraient d'abord, mais ils reconnaissent la voix et se rassurent. D'ailleurs, la porte fermée pour Paul l'est aussi pour l'impératrice. Ils ont donc tout le temps d'achever ce qu'ils ont commencé et ne seront point dérangés dans leur œuvre. Bennigsen soulève la tête de l'empereur et voyant qu'il reste sans mouvement, il le fait porter sur le lit. Alors seulement, Palen entre l'épée à la main, car, fidèle à son double rôle, il a attendu que tout fût fini pour se ranger parmi les conjurés. À la vue de son souverain, auquel Bennigsen jette un couvre-pied sur le visage, il s'arrête à la porte, pâlit et s'appuie contre le mur, son épée pendant à son côté. « Allons, messieurs, » dit Bennigsen, qui, entraîné dans la conspiration un des derniers, et qui seul, pendant cette fatale soirée, a conservé son inaltérable sang-froid, « il est temps d'aller prêter hommage au nouvel empereur. »« Oui, oui !» s'écrient en tumulte les voix de tous ces hommes, qui ont maintenant plus de hâte à quitter cette chambre qu'ils n'ont mis de précipitation à y entrer. « Oui, oui, allons prêter hommage à l'empereur. Vive Alexandre !» Pendant ce temps, l'impératrice Marie, voyant qu'elle ne peut pas entrer par la porte de communication et entendant le tumulte qui continue, fait le tour de l'appartement. Mais dans un salon intermédiaire, elle rencontre Petarovskoï avec 30 hommes sous ses ordres. Fidèle à sa consigne, Petarovskoï lui barre le passage. « Pardon, madame, lui dit-il en s'inclinant devant elle, mais vous ne pouvez aller plus loin. »« Ne me connaissez-vous point ? » demanda l'impératrice. « Si fait, madame, je sais que j'ai l'honneur de parler à votre majesté. » « Mais c'est votre majesté surtout qui ne doit point passer. »« Qui vous a donné cette consigne ?»« Mon colonel. »« Voyons, dit l'impératrice, si vous oserez l'exécuter. » Et elle s'avance vers les soldats. Mais les soldats croisent les fusils et barrent le passage. En ce moment, les conjurés sortent tumultueusement de la chambre de Paul en criant « Vive Alexandre !» Bennigsen est à leur tête. Il s'avance vers l'impératrice. Elle le reconnaît et, l'appelant par son nom, le supplie de la laisser passer. « Madame, lui dit-il, tout est fini maintenant. Vous compromettriez inutilement vos jours et ceux de Paul sont terminés. » À ces mots, l'impératrice jette un cri et tombe sur un fauteuil. Les deux grandes duchesses Marie et Christine, qui se sont levées au bruit et qui accourent, se mettent à genoux de chaque côté du fauteuil. Sentant qu'elle perd connaissance, l'impératrice demande de l'eau. Un soldat en apporte un verre. La grande duchesse Marie hésite à le donner à sa mère, de peur qu'il ne soit empoisonné. Le soldat devine sa crainte, en boit la moitié et présentant le reste à la grande duchesse. « Vous le voyez, dit-il, sa majesté peut boire sans crainte. » Bennigsen laisse l'impératrice aux soins des grandes duchesses et descend chez le tsarévitch. Son appartement est situé au-dessous de celui de Paul. Il a tout entendu, les cris, la chute, les gémissements et le râle. Alors il a voulu sortir pour porter secours à son père, mais la garde que Palaine a mise à sa porte l'a repoussé dans sa chambre. Les précautions sont bien prises. Il est captif et ne peut rien empêcher. C'est alors que Bennigsen entre, suivi des conjurés. Les cris de « Vive l'empereur Alexandre !» lui annoncent que tout est fini. La manière dont il monte au trône n'est plus un doute pour lui. Aussi en apercevant Palaine qui entre le dernier. « Ah, Palaine, s'écrie-t-il, quelle page pour le commencement de mon histoire !»« Sire, répond Palaine, celles qui suivront la feront oublier. » Mais, s'écrie Alexandre, mais ne comprenez-vous pas qu'on dira que c'est moi qui suis l'assassin de mon père ? Sire, dit Palaine, ne songez en ce moment qu'à une chose. Et à quoi voulez-vous que je songe, mon Dieu, si ce n'est à mon père ? Songez à vous faire reconnaître par l'armée. Mais ma mère, mais l'impératrice, s'écrie Alexandre, que deviendra-t-elle ? Elle est en sûreté, sire, répond Palaine. Mais au nom du ciel, ne perdons pas une minute. « Que faut-il que je fasse ?» demande Alexandre, incapable, tant il est abattu, de prendre une résolution. « Sire, répond Palaine, il faut me suivre à l'instant même, car le moindre retard peut amener les plus grands malheurs. » Palaine entraîne alors l'empereur à la voiture qu'on avait fait approcher pour conduire Paul à la forteresse. L'empereur y monte en pleurant, la portière se referme. Palaine et Zouboff montent derrière, à la place des valets de pied, et la voiture, qui porte les nouvelles destinées de la Russie, part au galop pour le palais d'hiver, escortée de deux bataillons de la garde. Bennigsen est resté près de l'impératrice, car une des dernières recommandations d'Alexandre a été pour sa mère. Sur la place de l'Amirauté, Alexandre trouve les principaux régiments de la garde. « L'empereur, l'empereur !» crient Palaine et Zouboff en indiquant que c'est Alexandre qu'ils amènent. « L'empereur, l'empereur !» crient les deux bataillons qui l'escortent. « Vive l'empereur !» répondent d'une seule voix tous les régiments. Alors, on se précipite vers la portière, on tire Alexandre, pâle et défait de sa voiture, on l'entraîne, on l'emporte enfin. On lui jure fidélité avec un enthousiasme qui lui prouve que les conjurés, tout en commettant un crime, n'ont fait qu'accomplir le vœu public. Il faut donc, quel que soit son désir de venger son père, qu'il renonce à punir les assassins. Ceux-ci s'étaient retirés chez eux, ne sachant pas ce que l'empereur allait résoudre à leur égard. Le lendemain, l'impératrice, à son tour, prêta serment de fidélité à son fils. Selon la constitution de l'Empire, c'était elle qui devait succéder à son mari. Mais lorsqu'elle vit l'urgence de la situation, elle renonça la première à ses droits. Le chirurgien Vett et le médecin Stoff, chargés de l'autopsie du corps, déclarèrent que l'empereur Paul était mort d'une apoplexie foudroyante. La blessure de la joue fut attribuée à la chute qu'il avait faite lorsque l'accident l'avait frappé. Le corps fut embaumé et exposé pendant 15 jours sur un lit de parade, aux marches duquel l'étiquette amena plusieurs fois Alexandre. Mais pas une fois il ne les monta ou ne les descendit, qu'on ne le vit pâlir ou verser des larmes. Peu à peu, les conjurés furent éloignés de la cour. Les uns reçurent des missions, les autres furent incorporés dans des régiments stationnés en Sibérie. Il ne restait que Palaine, qui avait conservé sa place de gouverneur militaire de Saint-Pétersbourg et dont la vue était devenue presque un remords pour le nouvel empereur. Aussi Alexandre profita-t-il de la première occasion qui se présenta pour l'éloigner à son tour.